Bush s'y est embourbé. Pourtant, les dirigeants soviétiques ont longtemps hésité avant de s'y engager.
Tous les samedis à 13h20, rendez-vous avec X.
France Inter présente Hubert Félix Thiéphen. Artiste inclassable, Hubert Félix Thiéphen est de retour avec l'Homo Plébis Ultima et Tour. En tournée dans toute la France et en concert à Paris-Bercy le 22 octobre 2011. Retrouvez Hubert Félix Thiéphen dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter.
La différence.
15h04 sur Inter, là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Des primes aux cons qui travaillent quand les cons qui les exploitent sont repus à millions. Merci, merci, merci pour la charité, Monseigneur Sarkozy. Mais la charité, c'est tout le contraire de la justice. La justice, c'est que les pharaons de la finance rendent à ceux qui les ont créés les richesses. Toutes les richesses que tes lois, Monseigneur, ont si généreusement transférées du travail vers le capital dont tu es et resteras, malgré tes déguisements, le fidèle défenseur.
Salut à Daniel et à toute l'équipe. Bravo pour ton émission. C'est Jean-Louis à Solignac, près de Limoges. Il se trouve que lorsque j'étais en activité, j'étais cadre supérieur à la Poste et militant à CGT, ce que je suis toujours, militant à CGT. Donc une émission remarquable. Simplement, je rajouterais un petit historique. Se souvenir que la séparation entre la Poste et France Télécom a été réalisée sous l'autorité de Michel Rocard, Premier ministre, et de Parti Socialiste, donc, et de Paul Quillès, ministre des Postes et Télécommunications à l'époque, socialiste, et avec l'appui de la CFDT à l'époque aussi. Voilà, salut, et bon courage, et encore bravo pour cette émission remarquable. Ciao.
Bonjour, voilà, je voudrais compléter un petit peu l'émission sur la Poste d'aujourd'hui, jeudi 21. Voilà, on entendait un ancien directeur, Christian Cozard, dire que la Poste était là pour accueillir toutes les populations, les riches, les moins riches. Et c'est rigolo parce qu'il s'est arrêté là et il n'a pas dit les pauvres, les plus pauvres. Et je ne pense pas que ce soit un oubli, mais bien l'affirmation d'un choix délibéré de clientèle. Et puis je voulais aussi ajouter que désormais, la stratégie n'est plus tellement principalement sur les ventes forcées, mais on s'oriente vers des bureaux avec toujours moins de personnel et toujours plus d'automates. C'est ainsi que les collègues sont tenus d'inciter les usagers à utiliser les différentes machines d'affranchissement ou autres, et donc ils les accompagnent devant l'automate pour leur montrer comment s'en servir et les habituer ainsi à faire eux-mêmes leurs opérations en se détournant de l'être humain. Et malheureusement, ben, il n'y a pas beaucoup de réactions, ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, moins de bureaux, les plus rentables seulement, moins de personnel, tout est prêt pour accueillir les actionnaires gros et petits.
Nos voisins français s'inquiètent de la privatisation de leurs postes. À tort, puisque chez nous, ça marche très bien, particulièrement dans nos campagnes. Regardez.
Bringeard Saint-Peu, Planvier, Maroufle, Berlimont, c'est son secteur géographique. Comme tous les matins, Gildebert Panvroux, postier privé, livre son courrier. Gildebert a accepté de nous laisser suivre sa tournée. Il nous parle avec passion de son nouveau métier.
J'ai dû acheter moi-même la voiture, la peinture jaune, bien sûr, l'uniforme, 15 000 euros d'investissement, mais franchement, c'était ça, une baraque à frites. Alors, je regrette pas. Hein.
Sa première livraison, le mandat d'une retraitée.
Madame Sylvain Marchupio ? Madame Sylvain Marchupio ?
Oui, monsieur.
C'est votre mandat ?
Bonjour, monsieur. Ah.
Votre retraite, 800 euros, et vous me devez 80 euros.
Hein ?
Vous me devez 80 euros. 10%.
Et pourquoi?
Parce que c'est privé maintenant. Faut payer. Voilà, merci, ça ira. Allez, bonne journée.
Ah bon?
Rentrez, prenez pas froid. Ah, les gens, qu'est-ce qu'ils croivent? Faut bien que je paye mon essence, moi.
Depuis la privatisation, peu à peu, les clients s'habituent.
Au moins le camp, fumier.
Chut. Vous me devez 500 euros.
Mais pourquoi ça? C'est mes impôts.
Mm-hmm.
Pourquoi qu'il faut que je paye en plus?
Parce que si j'étais pas passé, vous auriez payé une amende.
Eh oui.
Hein? Eh oui. Allez, ben, moi, je prends 50% de l'amende. Allez.
Oh, putain.
Pas commode, celui-là. Non, moi, j'aime bien ce boulot. C'est diversifié. On voit plein de gens.
Ce qui était, il y a peu, perçu au Groland comme une réforme impopulaire, est depuis largement rentré dans les mœurs. Résultat de la réforme, la camionnette jaune regardée autrefois avec le sourire est aujourd'hui regardée avec respect.
Eh oui, chez nous, même les pompiers sont privatisés. Ça marche très bien, mais ils passent plus de temps à remplir des piscines qu'à éteindre les feux.
Ouais, salut à tous. Hier, il y avait un message qui disait en substance qu'il fallait se mobiliser parce que les terres agricoles étaient en danger et que de partout, il y avait de la spéculation là-dessus. Alors, je voudrais lancer un message à tous les habitants, notamment du canton de Fayence, parce que demain, il y a le repère à 15h30 chez Hervé et Marie-France aux Estérés du Lac. Il y a le repère de la Bassigissu et on parlera des terres agricoles. Alors, vous imaginez bien que si la Chine, l'Inde et l'Arabie Saoudite achètent des millions d'hectares un peu partout de terres fertiles, il est peut-être temps chez nous de défendre celles qui nous restent. Allez, ciao vivre, portez-vous bien.
Chers AMG, amis du nucléaire, bonjour. Comme chacun le sait, le nucléaire a besoin d'eau. C'est pour ça que les centrales se reflètent dans nos belles rivières. Écoutez bien le proverbe du jour, chers AMG. Printemps sec, été sans élec. C'était Pierre de Paris, Mouvement Utopia.
Cher Daniel Mermer, Bernard Rolassian, président de la Chambre nationale franco-arménienne, vous qui êtes l'éternel combattant de toutes les injustices, je viens vers vous au nom des 700 000 personnes d'origine arménienne vivant en France, pour que vous puissiez dire quelques mots concernant le génocide arménien du 24 avril 1915, bientôt 96 ans déjà. Merci, cela nous fera très chaud au cœur. Bravo pour l'émission et bonne route sur le chemin de la liberté.
Voici le message. Le capitalisme a besoin que nous ayons envie de ce dont nous n'avons pas besoin. À bientôt sur les services d'Orange.
Quoi ? Qu'entends-tu au trésor de ce vendredi saint ? Il y a un chemin de croix sur la colline de Fourvière, c'est-à-dire au vu et su de tout le monde, sur la voie publique. Moi, je trouve ça très bien hein, que des catholiques commémorent un événement auquel ils sont attachés et ils vont faire donc le chemin de croix en portant une croix en plus de 3,80 m, si j'ai bien compris. Bon, c'est très bien. Mais alors, en quoi ça dérange quand les musulmans font leur prière sur la voie publique ? Je vois pas trop la différence. Alors moi, je suis pas contre les chrétiens du tout, les catholiques, mais je suis pas non plus contre les musulmans. Ce qu'on accorde aux uns, on doit l'accorder aux autres. Et je vois pas en quoi c'est gênant que les musulmans fassent leur prière sur la voie publique.
Oh, il fait beau, hein. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait beau. Un temps à se promener en bateau, tiens. À se promener en bateau. Et c'est un temps à s'acheter un yacht. Vous n'avez pas envie de vous acheter un yacht quand il fait beau comme ça, vous ? Un grand yacht. Eh ben voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller à Monaco. On va retourner à Monaco. On va assister au yacht show de Monaco. Et on va essayer de voir combien ça coûte déjà. Hein. Un yacht. Mais on ne veut pas n'importe lequel. On voudrait un yacht écolo. Voilà. Ah oui, un yacht écolo. Green. Voilà, un yacht green. Voilà, on retourne au début de l'histoire du green business et du greenwashing, au début de cette escroquerie en 2008 avec François Ruffin. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Pacificie au 01 56 40 37 37.
RAD, rien à dire, c'est comme ça, c'est la crise. Inutile de chercher le pourquoi du comment, puisque les experts pensent pour nous. C'est commode. Avoir l'esprit critique, ce n'est plus à la mode. Se poser des questions n'est que perte de temps. D'autant plus qu'il y a foisonnement d'infos. Internet, la télé, la pub et les sondages. Alors, douter de tout est vraiment d'un autre âge. Il faut positiver. Fini la parano. On en voit quelques-uns qui grattent ou ça démange. Ce sont des empêcheurs de détourner en rond. Des râleurs sans Rolex que le profit dérange et qui voudraient refaire le monde à leur façon. Ce sont des intellos, des altermondialistes qui sont fichés Greenpeace, Attac ou Amnesty, des faucheurs d'OGM, des anti-gaz de schiste qui voudraient qu'on s'éclaire encore à la bougie. Mais elles sont cueillies, les cerises rebelles. L'humanisme est géré par la World Company. L'empire financier promet nos vies plus belles, comme une religion promet le paradis. Ne nous dispersons plus dans la diversité. Nous n'avons d'autre choix que la pensée unique. Une minorité de cyniques qui niquent, une majorité qui se laisse niquer. Inutile de chercher le pourquoi du comment, puisque les banquiers comptent sur nous. C'est commode. Le service public, ce n'est plus à la mode. Esclave ou actionnaire, coco, choisis ton camp. Ne vous inquiétez pas, madame la marquise. La mondialisation est bien organisée. Paradis fiscaux et parachutes dorés. RAD, rien à dire. Tout va bien, c'est la crise. Jacques Dorian, Maine-et-Loire, salut les veilleurs.
Petite devinette. Essayez de deviner de qui est ce discours. N'est-ce pas les ouvriers les plus instruits et qui gagnent le plus, qui sont tout à la fois les plus déréglés et les plus dangereux pour la paix publique ? Assurément, je ne veux pas pour cela faire de l'obscurantisme. Il ne faut pas, sans doute, couper l'arbre de la science du bien et du mal. Mais je dis qu'il faut bien regarder avant d'étendre démesurément partout l'instruction primaire et surtout avant de lui donner une extension plus grande, qui n'est pas sans grave danger. Lire, écrire, compter, voilà ce qu'il faut apprendre. Quant au reste, il est superflu. Je demande formellement autre chose que ces instituteurs laïcs, dont un grand nombre sont détestables. Je veux des frères, bien qu'autrefois j'ai pu être en défiance contre eux. Je veux encore là rendre toute puissante l'influence du clergé. Je demande que l'action du curé soit forte, beaucoup plus forte qu'elle ne l'est, car je compte beaucoup sur lui pour propager cette bonne philosophie qui apprend à l'homme qu'il est ici-bas pour souffrir, et non cette autre philosophie qui dit au contraire à l'homme « jouis de la vie ». Je soutiens que l'enseignement primaire ne doit pas forcément et nécessairement être à portée de tous. Et j'irai même jusqu'à dire que l'instruction est, selon moi, un commencement d'aisance, et que l'aisance n'est pas réservée à tous. Bon alors, vous avez deviné ? Eh bien non, ceux qui ont répondu Sarkozy ont perdu, bien qu'on ne soit pas loin de l'idée du célèbre discours de Latran. Non, c'était Adolphe Thiers, devant la commission sur l'enseignement primaire de 1850. Hier, quoi. Au revoir.
La marina du port de Monaco ressemble à un coffre-fort en ce moment. Les plus beaux yachts du monde y sont présentés lors d'un salon qui s'adresse, il faut le dire, aux milliardaires. 97 bateaux de rêve en tout, avec des ponts en acajou, des banquettes en cuir et des cabines 5 étoiles. Les carnets de commandes sont pleins, puisque certains clients devront attendre jusqu'en 2013 pour prendre la barre.
Tapis rouge comme à Cannes, mais à Monaco, la montée des marches se fait pieds nus. Rituel incontournable pour fouler le pont d'un yacht. Dans le port, il y en a 97, l'équivalent de 2 milliards d'euros sur l'eau.
Vous roulez en Rolls ? Vous vivez dans des palaces et voyagez en jet privé. Mais vous ne possédez pas encore de yacht. Il est temps d'aller faire votre marché à Monaco, histoire de compléter votre panoplie de milliardaires.
Salut, ici Daniel Mermet avec François Ruffin, Monaco Yacht Show.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, je viens d'entrer au salon du yacht. Salon du yacht où on a l'impression qu'on vend presque autant d'avions, de jets que de bateaux. Alors là, au milieu du concert, un employé de restauration est en train de découper un cochon, tandis qu'on sert du champagne dans des gobelets en plastique. Un employé de la restauration en costume noir et blanc est en train de découper une tête de cochon avec le groin posé sur un plateau d'argent. Les visiteurs se sont arrêtés il y a un instant, ils l'ont pris en photo avec le cochon. Un groupe s'est formé, ils ont tous pris des photos et l'employé de restauration a fait une remarque. Ils prennent plus en photo le cochon que les yachts. C'est vrai que l'alignement de ces 500 yachts suscite presque moins d'enthousiasme parfois que de lassitude. Ils sont serrés côte à côte dans le port. On en aperçoit en fait en passant que le ponton arrière avec la passerelle qui se déplie pour les invités. Des masses de plastique posées les unes à côté des autres. Ils sont tous des géants et ça lasse presque. Là, on passe devant un bateau de 36 mètres, The Snapper, une masse noire, un peu une Bentley sur mer, 54 mètres, 44 mètres, 56 mètres, avec chaque mètre qui revient à peu près à 1 million d'euros. Pour l'instant, le plus grand yacht, c'est le yacht du Cheikh de Dubaï, le Golden Star, avec 160 mètres. Et son bateau de 160 mètres va bientôt être battu par Roman Abramovich, le pacha russe, qui va pas se laisser faire. Il dispose déjà de 4 yachts, qu'importe. Il est en train de s'en construire un cinquième de 170 mètres. Mais plus que sur la taille, on rivalise surtout sur les gadgets. Avec piscine à bord, jacuzzi, sous-marin, piste d'hélicoptère, parfois 2 pistes d'hélicoptère pour les plus prévoyants, un détecteur de missiles, Tajik Gadget, qui sont vendus ici.
Et voilà, nous y sommes entrés dans Monaco et le rêve devient réalité. L'atmosphère luxueuse qui y règne donne l'envie de vivre un conte de fées à la manière de Grace Kelly. La principauté de Monaco et son célèbre rocher princier s'étendent entre la France et la Méditerranée. Visitez Monaco, ville et son palais princier, son célèbre aquarium et Monte Carlo avec ses palais et son casino. Pas étonnant que cette destination ne cesse d'attirer les nombreux touristes dans ses filets. Seul, à deux ou en famille, la principauté saura vous émerveiller et vous proposer, outre ses paysages, côtiers, paradisiaques, toutes les activités nécessaires à votre épanouissement. À visiter au moins une fois dans sa vie, et vous verrez, à peine parti, ses visiteurs rêvent d'y retourner. Voilà l'heure que nous allons passer ensemble, chers AMG, chers auditeurs et auditrices, modestes et géniaux, modestes et géniales, dans ce pays de rêve. Non seulement un pays de rêve, mais un pays où on a une conscience, une vraie conscience. On est conscient des problèmes de cette planète. C'est ce que nous allons découvrir ensemble grâce à François Ruffin. N'oubliez pas, chers amis, sous la soutane de la vertu se cache le gourdin de la cupidité.
Quand on est riche, on est bien. Bien dans son corps, on a bon teint. On peut s'économiser, on n'est pas là à transpirer. Quand on est riche, on sent bon. Quand on est riche, on est heureux. Très. On vit dans un cocon moelleux. Même si on est vieux et petit, on plaît aux femmes jeunes et jolies. Quand on est riche, on est beau. Quand on est riche, on fait pas le ménage. Non, enfin, on peut quand on veut partir en voyage. On a un 4x4 imposant, alors on peut rouler sans peur. En cas d'accident, c'est l'autre qui meurt. Quand on est riche, c'est pas rigolo. On doit payer beaucoup d'impôts. Alors on est très affecté, mais on s'empêche de le montrer. Quand on est riche, on est discret.
Dans notre profession, RTT, vacances, congés, c'est pas les pages du dictionnaire, on les arrache à cet endroit-là.
Alors, monsieur M. González, vous êtes project manager. Là, on va aller visiter un bateau.
Voilà.
Alors, c'est assez exceptionnel, parce que depuis deux jours, j'ai pas réussi à visiter un bateau.
Non, les bateaux ne se visitent pas. Les visites se font uniquement sur rendez-vous. Il faut être reconnu client potentiel, en fait, avec un réel potentiel.
Madame González, il y a beaucoup de millionnaires, là, ici, autour de nous, en ce moment ?
Il y en a quand même pas mal, on va dire. En sous-marin, là, il y en a une bonne vingtaine. Et de toute façon, nous ne les verrons pas, on ne les croisera pas. Si éventuellement, on décroche un rendez-vous, ce sera toujours tard le soir, après la fermeture du show.
Ce sont des gens qui veulent conserver leur discrétion et justement, ils essaient de se montrer le moins possible.
Donc là, on passe le long de yachts qui, eux, n'ont pas tous une extrême discrétion.
Non, non, mais ça aussi, c'est le but. Après, il faut montrer que c'est quand même des beaux jouets.
Donc là, c'est des bateaux à trois ponts. Là, il y a un hélicoptère qui est posé sur le pont supérieur. Mais ils sont déjà vendus, ils appartiennent
non.
à quelqu'un ?
Ils appartiennent à quelqu'un, ils sont offerts à la vente. Ils sont sur le marché.
La personne, elle n'aura plus de yacht ou elle s'est déjà racheté un yacht ?
En général, ils en ont déjà un en construction.
Mieux ?
Toujours. Ça, c'est
toujours
un peu plus.
Toujours plus.
The new Moonraker's interior is a rich environment of high-gloss bird's-eye maple wrapped into a neutral color theme that suggests a much larger yacht than before. The Italian marble tops and custom imported bar.
Ah, ils sont beaux, hein? 97 yachts comme ça pour 2 milliards d'euros. Performance and beauty. C'est bien là-bas, c'est difficile.
Et en plus,
je vais vous dire, on fait le bien.
Eh oui, 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 oui.
Ce salon du yacht à Monaco fait le bien. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, le dit en préface à ce Monaco Yacht Show. Soucieux, écrit-il, de respecter l'environnement, cette manifestation compensera pour la quatrième année consécutive ses émissions de CO2 grâce au programme carbone neutral. Oui, écolo. Écolo, absolument écolo. Soucieux, et par ailleurs, le Monaco Yacht Show soutient la recherche afin de trouver des traitements thérapeutiques pour les enfants atteints de la myopathie de Duchenne en reversant la moitié de ses recettes à l'association monégasque contre les myopathies. Parfait, on fait le bien, on est des braves gens, on verse dans les bonnes œuvres et en plus, on est écolo. Ça s'appelle le greenwashing. Greenwashing, ça veut dire qu'on lave plus vert que vert. Il faut mettre du vert partout, où que vous soyez, qui que vous soyez, le vert, ça marche. Vous voyez, si vous fabriquez, je ne sais pas moi, des canons, peignez-les en vert. Tout, vous remettez du vert partout et ça marche. Et c'est indispensable, vous montrer votre conscience citoyenne du développement durable. Voilà, des expressions comme ça. Et c'est ce qui se passe évidemment dans ce salon où l'on rêve.
On est dans les allées du Monaco Yacht Show et on croise monsieur Charlie Erdal.
Voilà, c'est notre agent en Turquie en fait. Partout où on va en Turquie, Charlie s'occupe de nous. On n'a rien à faire, on appelle, on est là à tel endroit et on a tout ce qu'on veut de près sur le quai, les places de port, les approvisionnements en frais, etc. Le but, c'est d'être chez nous partout dans le monde, en fait. Et ce sont des gens qui nous aident énormément. Si vous voulez, on lui demande tout ce qu'on peut imaginer. les demandes des propriétaires qui sont complètement imprévisibles.
C'est quoi comme demande par exemple ?
Il faut, dans une heure, il faut trouver un hélicoptère, il faut trouver un billet d'avion pour dans un endroit tout à fait insolite, il faut trouver des framboises fraîches pour le petit déjeuner demain matin.
C'est des caprices un peu quand même, non ?
C'est des caprices, on peut appeler ça comme ça, mais si vous voulez, ce sont des gens habitués à un service, et nous, notre métier, c'est un vrai métier de service.
Votre métier, c'est en fait tous les services qui existent sur Terre, c'est de reproduire les mêmes services sur mer, qu'il n'y ait pas de fracture entre... Alors, Charlie, si on vous demande des framboises, des raspberries, how do you get it? Comment vous l'obtenez?
We ship it from France or from Holland, you know.
Alors ça, on le fait venir par bateau.
We ship it by plane, you know.
Par avion. Yeah. Ah d'accord, on le fait venir.
Il est faux tout à l'heure, donc le bateau.
Comme il faut que ça soit rapide, on fait venir les framboises par avion. Mais alors, il y a un avion spécial pour les framboises?
C'est le propriétaire qui a son bateau, il a forcément son avion.
Il y a le pilote du jet, comme vous dites, qui va chercher les framboises en Hollande, qui les fait parvenir à Charlie en Turquie, et Charlie les amène en hélicoptère sur le bateau.
La façon la plus rapide, c'est lui qui choisira le moyen de nous les amener. Ça peut être une moto, ça peut être un avion, ça peut être un hélicoptère, ça peut être un autre bateau, puisqu'on est au mouillage. En fait, il y a toute une chaîne de solidarité qui se met en place avec le seul leitmotiv, rapidité.
Pour satisfaire le client.
Voilà.
Des chaussées. Donc on grimpe sur la passerelle. On essaye de ne pas envoyer une agro à la flotte. Alors là, sur le bateau d'à côté, il y a un hélicoptère. On appelle ça des toys, des jouets.
Sur tous les bateaux, il y a des jouets. Vous avez les incontournables jet ski, et puis sur certains, vous avez des petits sous-marins, des hydravions. Il n'y a pas de limite. Hein. Vous avez tout l'arrière du bateau qui s'ouvre.
Là, on peut ouvrir une grande porte.
Vous avez tout ça, là, ça s'ouvre, vous voyez. Toute cette surface-là, c'est monté sur des grosses charnières avec des vérins hydrauliques. Et vous avez dans le garage tous ces jouets.
Alors, mademoiselle, le bateau est vendu avec les jouets ou sans les jouets?
Avec les jouets.
C'est quoi les suppléments offerts?
Vous avez les deux tenders, donc des skis nautiques, ça peut être les donuts, donc toutes les jouets gonflables qu'on peut tirer derrière, les speedboats, le wakeboard. Et également, vous avez l'équipement de plongée.
Le wakeboard?
Oui.
C'est quoi le wakeboard?
C'est comme les skis nautiques, mais vous avez juste une planche. C'est comme le snowboard, mais pour l'eau.
Et pour ne pas faire uniquement pour bronzer bêtement, donc il faut avoir plein de choses à disposition pour occuper les gens toute la journée.
Donc là, on rentre. On peut jeter un coup d'œil au système de navigation, donc à l'avant du bateau. Bon, le fauteuil est confortable pour conduire.
Pour le capitaine, oui, bien sûr.
Ça, c'est la photo de ce qu'on voit devant nous. Il y a une caméra devant.
Oui, il y a une caméra, en fait, qui est sur le mât.
Ça permet de voir le paysage et ça permet surtout, quand le bateau est au mouillage, de pouvoir surveiller la zone de mouillage, y compris la nuit, parce que, bien souvent, ce sont des caméras infrarouges. C'est une sécurité quand on arrive dans un mouillage de nuit qu'on ne connaît pas, ou parce que vous avez des petites embarcations qu'on voit très peu sur les écrans radars, qu'on les voit très mal. Et ce système de caméra est très performant.
Contre les pirates somaliens, ça peut permettre de voir un peu qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des gens qui veulent vous prendre d'assaut.
On les verra peut-être arriver avant, ça, c'est pas pour autant qu'on pourra les arrêter, mais au moins on sera averti, on les verra arriver. Quoi, voilà.
Et il n'y a rien pour les arrêter là? Il n'y a pas de canon à bord, j'ai pas vu de canon.
On n'est pas des guerriers.
En règle générale, les équipages n'ont pas d'armes à bord, sauf dans des zones à risque, justement comme par exemple la Somalie, où effectivement il y a tout un équipage de sécurité qui vont venir pour protéger le bateau et son équipage.
Il y a des chambres aussi, non? Parce que là, on ne voit pas les chambres. C'est pas un canapé-lit, alors. On n'a pas besoin de déplier le canapé pour s'installer. On descend l'escalier vers le sous-sol. Oh là, il y a une moquette, elle est confortable, elle fait 3 cm
oui.
d'épaisseur,
c'est oui. bien, on et est bien en dessus. Soie, donc elle est très, très douce.
En soie, d'accord.
Donc ici, nous avons deux cabines doubles, et le master, donc qui est
la chambre du propriétaire, ou la chambre la plus luxueuse.
D'accord, donc il y a bureau. Un
téléphone, vous avez docking iPod station, donc pour tout, et également télévision, puisque la télévision, en fait, elle est cachée ici, derrière cette œuvre d'art.
Ah, il y a une œuvre d'art, un tableau qui est posé mm-hmm. devant la télévision.
Tout à fait. Petit appui sur ce bouton, en fait, elle descend.
Allez-y. Ah, c'est classe quand même. Hein. Là, il y a quelque chose qui se cache derrière l'œuvre d'art ou pas?
La salle de bain.
Ah, il y a la salle de bain, là?
Voilà, bah c'est bien, c'est confortable. Il y a même une baignoire, quoi.
Oui.
Baignoire, douche.
Grande douche.
Moi, je suis pas contre habiter ici.
Alors, si j'achète ce yacht, je voudrais savoir combien ça consomme. Mais quand j'achète une voiture, je veux savoir combien ça consomme au 100, là, combien ça consomme à l'heure.
Bon, ce sont des bateaux qui consomment entre 500 et 600 litres heure avec les moteurs et tous les générateurs en fonctionnement. Bon, ça reste des consommations qui sont malgré tout raisonnables étant donné la taille des bateaux. On a des bateaux qui sont vraiment au top de tous les systèmes écologiques qu'on peut trouver. Et il faut savoir aussi qu'on ne rejette en mer absolument aucun déchet.
J'ai l'impression que la nouvelle tendance, la nouvelle mode, c'est de mettre une part d'environnement dans le bateau.
C'est beaucoup plus qu'une mode, c'est un souhait en fait des propriétaires qui sont des gens qui sont très sensibles à l'environnement.
The panoramic etched glass creates a distinct ambiance forward. A marble breakfast bar with ample recessed storage complete this well-designed area. The use of custom stainless Malcolm Cole designs is prevalent throughout the yacht. The magnificent stairwell railings and the custom leather-covered stools truly complement her clean design.
Et pour ce gadget, là on passe, il y a un petit sous-marin, on croirait sorti de Tintin, un sous-marin orange. Là il y a un avion aux ailes rétractables, un avion qui peut se poser sur la terre, sur l'eau, sur la neige. Ce qui surprend le plus, c'est notre course. Une course à l'environnement, une course dans le discours. Là, par exemple, la publicité pour cet avion aux ailes rétractables montre un yacht qui doit bien faire 40-50 mètres de long, un yacht qui fonce sur la mer avec l'avion posé sur le ponton arrière du yacht. Et le slogan, c'est « Ecological Yachting Lifestyle », style de vie écologique du yacht. C'est l'un des mots les plus utilisés du dossier de presse, par exemple, qui est remis pour ce salon. C'est « Environment, Green Attitude, l'attitude verte ». On est en train de publicité sur les stands avec les mots « Green, Respect the Environment ». Un milliardaire a même commandé un yacht avec une forêt à bord. Philippe Stark, qui vient de designer le A, ce bateau avec deux pistes d'hélicoptère, avec une discothèque, avec une piscine au toit transparent. Philippe Stark possède 21 maisons partout dans le monde, 21 motos, et il circule avec un jet privé entre ces 21 maisons. Philippe Stark parle, lui, des yachts en harmonie avec la nature, et pour son avion, il parle de jet écologique. J'avais beaucoup aimé le livre d'Hervé Kempf, « Comment les riches détruisent la planète ». C'est un peu comme si on était dans l'endroit qui illustrait cette destruction de la planète, puisque un yacht consomme 1000 à 2000 litres de carburant par heure. D'où cette course au politiquement propre, comme l'indique le dossier de presse, tout un discours qui habille cette destruction accélérée de la planète.
Voici le Paloma ce soir au large de Malte. C'est à bord de ce yacht que Nicolas Sarkozy a choisi de passer quelques jours, le temps d'investir la fonction présidentielle, comme il l'avait annoncé avant l'élection. Il est accompagné à bord de son épouse Cécilia et de leur fils Louis. Le bateau compte 7 cabines grand luxe et un jacuzzi sur le pont supérieur. Nicolas Sarkozy a atterri à Malte hier soir à bord de ce jet privé immatriculé en France. Le yacht a levé l'ancre immédiatement cap au sud. Les Sarkozy ont passé la nuit au large de Delimara. Et ce matin, le bateau a pris la route de Syracuse en Sicile. Sur ce site internet, la location à la semaine du Paloma est proposée pour 193 000 euros. Aucune information n'indique ce soir qui a pris en charge les frais de location. Le yacht appartient au groupe Bolloré, tout comme le jet privé. Un aller simple entre Paris et La Valette coûte normalement 40 000 euros. Ce soir, l'entourage de Nicolas Sarkozy, l'UMP et le groupe Bolloré ne font aucun commentaire.
Ah oui, mais c'était un petit yacht de 60 mètres, hein. C'est tout, celui de Bolloré, le Paloma, là, c'est 60 mètres, alors que là où nous sommes, à ce salon du yacht de Monaco, le 90 mètres n'est pas du tout exceptionnel, hein. Non, c'est tout à fait courant. Quelqu'un à l'époque avait dit que la somme dépensée pour cette petite escapade présidentielle correspondait à 17 années de salaire pour un smicard et 36 années de revenus pour un RMiste. C'était l'APES qui avait fait ce calcul, l'Association de défense des chômeurs et des précaires, le genre de remarques de mauvais goût, qui avait fait dire ceci à Michel Barnier, qu'il était, je cite, « frappé par l'arrogance des mauvais perdants ». Frappé par l'arrogance des mauvais perdants, c'est-à-dire l'Association de défense des chômeurs et des précaires. Voilà, on continue cette visite donc de ce Monaco Yacht Show avec, vous avez vu, un peu notre expert François Ruffin qui vraiment, je trouve, nous fait rêver.
On avance là le long des yachts sur le ponton mobile du port. On avance avec Paolo Moretti qui est expert à la société RINA, société d'expertise qui avait déjà expertisé Erika. On va se rendre au bateau Seaforce One, le bateau qui cette année a reçu le Green Star Yachting.
We created 2 years ago this very specific and very strict set of rules in order to guarantee that mega yachts are designed, built and also operated in a total environmental friendly way.
Ça fait 2 ans qu'on a mis en place des règles pour s'assurer que à la fois le design, la conception et la fabrication du bateau étaient faits de manière compatible avec l'environnement. Alors là, on arrive devant le Seaforce One. C'est une masse énorme, une masse noire de 54 mètres de long. C'est un bateau à 3 ponts, très impressionnant, very, very big. Quand on pense à un bateau qui est compatible avec l'environnement, on pense à un bateau qui fonctionne à voile, un petit bateau qui fonctionnerait à voile. Là, c'est au contraire un bateau très massif, énorme.
Yes, of course. At the beginning, it's a little bit strange to look at this very, very huge mega yacht.
Au début, c'est effectivement un peu étrange de regarder à ce super énorme méga yacht comme quelque chose de compatible avec l'environnement.
But then, if you go through the specification and you can see that.
Mais maintenant, si vous regardez les spécifications de plus près,
let's say that she is environmental friendly from the bottom to the top.
Alors, on peut dire que ce bateau est compatible avec l'environnement du bas jusqu'en haut. Combien est-ce que vous connaissez la consommation de fuel de ce bateau par heure de voyage? Vous ne savez pas combien ça consomme?
No, because it's something that we are not directly involved on.
Non, c'est parce que c'est quelque chose qui ne nous concerne pas directement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'hypocrisie à attribuer un prix de Green Star Yachting pour des bateaux qui consomment des milliers de litres pour très peu de personnes à bord?
No, because I think that this is a way to put to the attention of all the yachting community.
Je pense que c'est pas de l'hypocrisie, je pense que c'est une manière de d'éveiller la conscience de toutes les personnes qui appartiennent à la communauté du yacht.
Tu n'as pas de toi. Tu dors sous un carton, c'est comme ça, je vaux mieux que toi. J'ai tout ce que tu n'as pas. Tra-la-la-la-la. 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 J'ai une jolie Rolex, un Dupont plaqué or, une veste sur mesure. Tra-la-la, pas toi. J'ai un téléphone portable, un porte-cigarette, un portefeuille en pot de croco. Tra-la-la, pas toi. J'ai une décapotable avec une fille décapotable à mes côtés. Tralala, pas toi. J'ai un appartement m'appartenant, un home trainer indiquant l'heure. Tralala, pas toi. Tralala, pas toi. Tralala, pas toi. Tralala. Avec piscine, une glycine, des lilas, les tiges villas. Tralala, pas toi. Je blanchis en Suisse, je me grise à Venise, je me fais bronzer à Saint-Tropez. Tralala, pas toi.
quelqu'un, je me pavane, je pavoise avec mes rébanes. Tralala, pas toi. Je suis partout, ça brille, je suis happy avec mon badge VIP. Tralala, pas toi. Tralala, pas toi. Tralala, pas toi.
Comment les riches détruisent la planète? Vous vous souvenez de ce livre et de son auteur Hervé Kempf, qui est journaliste par ailleurs au quotidien Le Monde. On l'avait reçu pour ce livre et comment les riches détruisent la planète. Kempf, il n'est pas le seul, fait un lien entre cette richesse ostentatoire qui est quelque chose de très enfantin, au sens où la mienne est plus grosse que la tienne, quoi, c'est ça, en gros. Le yacht, le tien, il fait 50 mètres, le mien, il fait 55, et après 80, etc. Voilà, c'est celui qui aura la plus grosse. Et, bon, on rigole, bon, c'est une petite pathologie, sauf que, non, il y a des conséquences, évidemment, à tout ça, et c'est pas en se repeignant en vert, en se passant un petit coup de vernis vert, qu'on fait croire à autre chose. Mais on voit bien que nos amis les richissimes sont quand même assez soucieux de ça et tiennent absolument à se déguiser. On retrouve Hervé Kempf, donc auteur, je le rappelle, de Comment les riches détruisent la planète.
Monsieur Hervé Kempf, vous êtes journaliste au Monde. Vous êtes l'auteur de Comment les riches détruisent la planète. Et il me semble qu'en me rendant à Monaco, c'est comme si je m'étais rendu dans le lieu qui illustre le mieux la thèse de votre ouvrage.
Qu'il y ait une articulation très profonde, intime, entre la crise écologique et la crise sociale. Le fait que nous sommes redevenus une société profondément inégalitaire, dans laquelle la partie dominante de la société, la couche supérieure que j'appelle l'oligarchie, accumule les pouvoirs économiques, politiques et en très large partie médiatique de manière tout à fait extraordinaire. Alors quel est le lien avec l'écologie? Je m'appuie là-dessus sur la théorie d'un économiste américain du siècle dernier, Thorstein Veblen, qui expliquait que nous sommes pris dans une course symbolique à la rivalité ostentatoire, en quelque sorte.
La taille des yachts, par exemple.
Et évidemment, les oligarques sont eux aussi tout à fait dans cette course au toujours plus, au toujours mieux, au toujours plus grand.
Mais alors, pour autant, est-ce que ces gens qui, donc à Monaco, ont un yacht, un jet, un hélicoptère, détruisent, comme vous dites, la planète?
Ils le détruisent directement. Du fait que, par exemple, si vous prenez ces yachts, vous pouvez dire que tous les ports sur la Côte d'Azur et dans un certain nombre d'endroits ont été agrandis. L'écosystème marin a été détruit pour permettre ces grands yachts. Évidemment, ils vont consommer énormément d'énergie. Mais le plus important, me semble-t-il, est ailleurs. Il est dans le modèle qu'ils projettent sur l'ensemble de la société. Parce que les individus dans une couche sociale prennent modèle sur la couche qui est au-dessus d'elle. Et ainsi de suite, du bas en haut de la société. Et finalement, ce qui est important de voir, c'est que c'est le groupe social qui est au sommet de la société, de la pyramide sociale, qui va définir le modèle culturel de consommation ou de prestige, plus exactement, pour l'ensemble de la société. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est dans une société extrêmement inégalitaire comme la nôtre, où il y a un gaspillage absolument énorme, incommensurable au sommet de la société, et où c'est ces oligarques super gaspilleurs qui définissent le modèle culturel? Ils nous entraînent finalement par la publicité, par la télévision, par ce désir d'imitation, dans une surconsommation extrême.
Vous voulez dire que je vois ces oligarques qui ont un yacht, qui ont un jet privé, qui ont un hélicoptère, je vais peut-être pas me payer ça, mais je vois qu'ils ont une piscine privée, je vais vouloir avoir ma petite piscine.
Exactement, et puis on peut même descendre l'exemple des bateaux. Tel oligarque américain, russe, aura un yacht de 140 mètres de long. Grand patron de PME aura un yacht à moteur de 30 mètres de long. Et puis de fil en aiguille, puis la classe moyenne prospère voudra avoir un bateau, parce que c'est bien d'avoir un bateau. Donc il aura son bateau à La Rochelle. Et puis des individus moins prospères voudront aussi faire de la croisière. Enfin, il y a une sorte de gradation, de percolation, en quelque sorte, du haut en bas, qui nous pousse tout à fait à imiter ce comportement. On a là l'exemple typique, effectivement, comment ce mécanisme psychologique de suprématie ostentatoire se traduit par un désordre écologique bien concret.
On a les yachts, puisque c'est 24 à 36 mètres. On a les super yachts, de 36, on va dire, à 45. Après, on a les méga yachts. Puis après, peut-être, il faut créer des catégories, les véga yachts, puisque, évidemment, on est sur le nos limites. Et je pense même me hasarder, pas trop, en disant que dans les années futures, il y aura très peu de secteurs qui échapperont au dévissage, à la crise, à des yo-yo comme ça. Mais je pense que ce grand yachting est un peu au-delà des marchés. Aujourd'hui, nous avons sur la planète à peu près 4000 bateaux de plus de 24 mètres qui flottent sur les océans. Je pense que d'ici 2010, il y en aura pratiquement le double. Les carnets de commandes sont pleins pour 4 ans. Ça pourrait paraître aussi insultant par rapport à tout un chacun. On sait qu'on est dans un monde extrêmement précarisé, où d'un côté, on a la masse des précarisables, vous et moi inclus, hein. Et de l'autre côté, sur 0,02% de la population mondiale, les gens qui peuvent s'acheter à peu près tout ce qu'ils désirent. Il faut aller au-delà de ça et se dire que pour le moment, on ne peut pas refaire le monde. Alors voyons le bon côté des choses. C'est un secteur d'activité en plein essor. On vit dans un monde libéral et un marché, une économie de marché. Essayons de faire avec, essayons de créer de l'emploi, de la richesse avec ça. Et soyons satisfaits que déjà, nous, Europe, avons su capter ce savoir-faire.
Alors moi, je viens ici avec, pour information principale, votre dossier de presse. Alors il y a quelque chose qui est très présent, une énorme partie consacrée à la défense de l'environnement, vous en parlez dans votre dossier de presse. Ce que vous appelez la verte attitude, par exemple le fait que quand on produit un yacht, ça se fait plus, les courriels ne sont plus imprimables apparemment, ça se fait plus avec des plans sur papier, mais ça se fait avec des plans qui sont directement sur ordinateur de manière à ne pas consommer de papier. Les éclairages par diode à l'intérieur des navires sont faits avec une plus faible consommation. Vous parlez aussi d'éco-gestes. Sur les yachts, il y a un désir d'être plus soucieux de l'écologie.
Il faut le prendre de manière aussi sérieuse qu'on le prendrait sur n'importe quel secteur d'activité et pas comme une danseuse ou quelque chose qui ferait légèrement sourire. Aujourd'hui, ils ont mis dans les processus et puis les différentes entreprises le développement durable comme un paramètre avec lequel il fallait compter.
On est sur le ponton du One. Un yacht de 25 mètres comme ça, vous savez combien ça consomme de gasoil en une heure?
Moi, j'ai aucune idée parce que je suis organisateur d'événements. J'ai assez peu d'idées, en fait, de comment fonctionne la grande plaisance.
Écoutez, on peut peut-être aller leur demander éventuellement combien ça consomme. C'est à qui on peut demander ça, d'après vous?
Grazie.
Prego.
Juste une demande. Le signore voulait savoir qual era il consumo
in litri all'ora
sì.
E consuma sui 650 litri l'ora
650 litri par heure.
C'est en une heure à peu près la consommation d'une année d'un automobiliste.
Voilà.
Il viaggia solo due settimane l'anno.
Par contre, il voyage que deux semaines par an.
Heureusement que le gasoil est détaxé pour vous.
Ok, grazie.
Grazie, grazie. On enlève les petits chaussons en plastique qu'on mettait sur le ponton du bateau.
C'est pas extrêmement écologique dans sa consommation, mais je suppose que le propriétaire aura sûrement à cœur de mettre son bateau sous le label carbone neutral, par exemple.
Monsieur Herbeckamp, toutes ces personnes qui ont un yacht, qui ont un jet, qui ont un hélicoptère, ont un discours écologique. Au Monaco Yacht Show, on a délivré la Green Star, l'étoile verte du yacht le moins polluant. Quand on va à Monaco, il y a une personne qui est responsable de la fondation Albert II qui dit bien qu'elle a sa voiture électrique.
Bah, ils se foutent du monde, tout simplement. C'est comme Richard Branson, le patron de Virgin, qui dit à la fois « je suis très écolo, je veux aller vers l'environnement, etc. » mais qui en même temps promeut le projet d'une fusée pour permettre aux personnes les plus riches de la planète d'aller assez régulièrement se promener dans l'espace. Alors qu'on sait que des voyages fréquents en fusée serait une consommation de carburant absolument colossale. Je crois qu'on a là la tendance de ce qu'il faut bien appeler un capitalisme européen aux couleurs vertes. C'est-à-dire, de plus en plus, on va nous dire « mais voyez, je suis en papier recyclé, donc je peux imprimer n'importe quelle bêtise. Ma voiture est électrique, donc ça ne pose pas de problème. Mon bateau de 120 mètres de long est en plastique recyclable, donc tout va bien. » Je crois que c'est une fumisterie. malheureusement, qu'on le veuille ou non, pour aller vers la prévention de la crise écologique, il faut nous orienter vers une réduction de la consommation matérielle.
Mais en même temps, il y a un certain nombre de personnes sincères qui portent ces notions d'environnement dans un cadre qui n'est pas du tout. Quand on rencontre donc le patron du Monaco Yacht Show, eux, ils disent, en gros, on ne peut pas changer le système. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est faire des éco-gestes pour être en paix avec soi-même. Et là, je cite le dossier de presse du Monaco Yacht Show.
C'est ce que le capitalisme vert essaye de nous dire en ce moment. Restez des consommateurs isolés. Restez des individus, mais consommez bien. Consommez vert, consommez recyclable. Et comme par enchantement, par la loi magique du marché, les choses s'arrangeront. C'est non seulement faux, mais c'est en plus contre-productif si on s'intéresse à l'environnement. C'est pas en tant que consommateur qu'on changera les choses, mais c'est en tant que citoyen remettant en cause l'organisation du pouvoir. Et ça n'est pas parce que, pour être très concret, je ferai du vélo que ça empêchera un système absurde de construire des autoroutes ou de développer des usines automobiles.
Voici l'intérieur du nouveau Moonraker, un environnement cossu pour lequel nous avons choisi les essences les plus nobles. Il suggère un yacht beaucoup plus grand qu'avant.
Bonjour à tous. Que se passe-t-il réellement ce matin au large de la Somalie? Une trentaine de Français, tous membres d'équipage d'un luxueux voilier de croisière, sont toujours retenus en otage depuis hier par un gang de Somaliens.
Les plafonds de marbre italien, ainsi que les barres sur mesure, égaient les tapis de soie.
Une trentaine de Français, membres d'équipage d'un voilier de luxe, sont a priori toujours aux mains de pirates ce matin. Hier, leur navire a été pris d'assaut par un gang de Somaliens, en réalité une puissante mafia des mers qui attaque régulièrement les bateaux aux lance-roquettes.
La performance, mais aussi la beauté, sont la définition de l'élégance contemporaine du yacht.
Ben oui, ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez, on vient de le dire. C'est le modèle culturel qui attire, pas seulement nous, les gogos franchouillards, les Somaliens aussi sont amateurs de bateaux. Les grands bateaux comme le Ponant, 88 mètres de long, 3 mâts, équipés de 32 suites. Alors, pour éloigner un petit peu ces Somaliens trop curieux, il a fallu quand même leur verser une rançon de 2 150 000 dollars, qui a été par la suite, vous vous souvenez de cet épisode, parce que ça masquait toutes les autres nouvelles et toutes les autres informations, qui a été en partie récupérée. N'empêche que ça, au moment où on se dit, et si on s'achetait un yacht, nous, l'équipe de la base, j'y suis, avec le pognon qu'on se fait avec l'argent public, il n'y a pas de raison qu'on ne détourne pas, nous aussi, un peu d'argent public. On hésite parce que, y a des pirates. Eh ben oui, il y a des pirates. Alors, on se renseigne.
Donc là, on se trouve au stand de Transmer Assurance. Excusez-moi, je vais regarder votre badge. Alors, vous êtes Jacques-Henri Guillet, souscripteur Transmer.
En fait, nous sommes des courtiers. Nous, on propose notre contrat.
Mais toutes les histoires de pirates et puis tout ça, est-ce qu'il y a une assurance contre les pirates?
Alors là, vous êtes tombé chez le bon courtier. Parce que nous, on a la chance, effectivement, notre contrat, excusez-moi, je ne vais pas faire de la pub, mais le contrat dont on dispose n'exclut pas justement le risque piraterie. Donc effectivement, en ce moment, par exemple, tout ce qui est la corne de l'Afrique, en Somalie, tous ces coins-là, nous, nos assurés qui sont en ce moment en train de passer par là, on en a quelques-uns qui naviguent dans le coin, ou en tout cas, on leur demande d'être vigilants.
Alors oui, être vigilant, ça veut dire quoi alors?
Alors la vigilance, elle passe par quoi? C'est éviter évidemment de longer de trop près les côtes. La navigation en flottille est quand même préférable.
En flottille, ça veut dire
plusieurs bateaux. On se retrouve à Djibouti. Bon, tiens, tu fais quoi? Oui, je descends à Madagascar. Toi aussi, on passe ensemble.
On y va à 4-5 yachts.
Pour essayer de se protéger. J'en ai même qui m'ont dit, nous c'est simple, qui ont l'habitude de passer par là, par exemple la nuit, de naviguer tout feu éteint, tout éteint, de façon à ne pas laisser aucune trace, même sonore, même un radar. Donc ils vont jusqu'à tout éteint.
Rouler feu éteint alors? Et vous couvrez la rançon, alors vous remboursez la rançon dans ces cas-là?
On va pas payer la rançon nous, on va payer les dégâts qui vont être faits au bateau. Donc effectivement, la partie rançon, on va pas être là pour la payer. En revanche, dans l'opération, le bateau va être endommagé, les gens blessés, là, on va intervenir. La rançon, c'est un autre domaine.
Et est-ce que vous conseillez de s'armer ou bien...
Non, surtout pas.
Pas de canon, rien?
Non, non, ça, non, non, ne transformons pas nos bateaux en, de plaisance en engin de guerre. C'est des mecs qui n'en ont rien à faire de la vie, ils s'en foutent. Ils sont tellement désespérés que c'est pas grave. Donc
il vaut mieux s'écraser, quoi. On leur file les clés du bateau et
puis
tout
ça. Vaut mieux donner.
On a la météo marine hein, sur France Inter,
d'accord.
Donc il faut aussi qu'on informe nos auditeurs des lieux par où passer et par où ne pas passer, quoi, avec leur yacht.
C'était un reportage de François Ruffin, première diffusion le 14 octobre 2008. Merci à Hervé Kempf. À noter que son livre « Comment les riches détruisent la planète » a été réédité chez Point en janvier 2009. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas. Si j'y suis, à la technique aujourd'hui, Basile Bocquer et Guillaume Roux. À la réalisation, Coy Nguyen et Franck Adhérer, assistés d'Agnès Lebot et Marina Touyez. Attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Joël Collado. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ce soir, c'est Bruckner par Chung.
Orchestre, chœur et maîtrise de Radio France.
Je m'abonne.
Nouvelle saison des concerts de Radio France. Brochure gratuite au 01 56 40 15 16
ou concert.radiofrance.fr.
France Inter, partenaire du coffret Les Beaux Labels des Inrecuptibles. Apparu dans les années 70 en Angleterre et aux États-Unis, les labels indépendants ont bouleversé l'histoire de la musique.
Les Beaux Labels des Inrecuptibles.
De Joy Division à Franz Ferdinand, en passant par Nirvana, Aphex Twin ou Midlake, les Inrecuptibles célèbrent 5 de ces labels. Le coffret Les Beaux Labels des Inrecuptibles, un partenariat France Inter.
Bonne journée sur France Inter, il est 16h. Les informations avec Antoine Balandra.
Les enquêteurs sont toujours à la recherche de Xavier Dupont de Ligonnès. Le corps de sa femme et de ses 4 enfants ont été exhumés hier dans leur maison familiale de Nantes. Depuis, on sait que l'homme a passé une nuit dans le Var le 14 avril dernier. Sa voiture a d'ailleurs été retrouvée. L'autopsie, elle a révélé qu'au moins 2 des victimes, la mère et son fils de 18 ans, ont été tués d'une balle dans la tempe. Le gaz de schiste, pourquoi pas? En tout cas, un rapport publié hier préconise d'explorer les réserves du sous-sol français. Elles seraient colossales. Ce rapport avait été commandé par le gouvernement en février dernier, juste après la suspension de tous les projets d'exploration. La France avance. Voilà la première phrase du bilan de Nicolas Sarkozy, publié aujourd'hui par l'Élysée. 4 ans d'action, mai 2007, mai 2011, une plaquette bilan tirée à 5000 exemplaires pour 8 500 €. Elle sera distribuée aux élus, aux ambassadeurs ou encore aux préfets. 75 pages où le président détaille son action. 150 passagers d'un TGV comptent demander collectivement réparation. Hier, leur train Paris-Marseille est arrivé avec 3 heures de retard à cause d'une panne de la motrice, mais les passagers ont décidé de ne pas se contenter du remboursement prévu par la SNCF. Ils vont donc protester ensemble contre la dégradation du service, comme ils disent. 10 personnes tuées, au moins, en Syrie, après les manifestations du jour. Les forces de sécurité syriennes ont tiré à balles réelles sur la foule, notamment à Damas ou encore à Homs, dans le centre du pays. Dans la capitale, les manifestations ont été dispersées à coups de gaz lacrymogène. Les manifestants demandent toujours le départ du président syrien Bachar el-Assad. Le Yémen, lui aussi sous tension, les opposants au président Ali Abdallah Saleh ont baptisé cette journée le vendredi de la dernière chance. Des centaines de milliers de protestataires se sont rassemblés ce matin dans le centre de Sanaa, la capitale. Hosni Moubarak restera en détention au moins 15 jours de plus. L'ancien président égyptien est poursuivi pour la répression des manifestants du début de l'année. Il avait été chassé du pouvoir le 11 février. L'ancien homme fort de l'Égypte a 82 ans. Il est actuellement dans un hôpital de Sharm el-Sheikh. La France envoie 25 tonnes de médicaments et de matériel médical en Côte d'Ivoire. Objectif, réapprovisionner les stocks de 3 hôpitaux. Un avion doit partir aujourd'hui pour Abidjan. Autre opération, celle-là militaro-humanitaire. Celle préparée par l'Union européenne pour la ville assiégée de Misrata en Libye. La diplomatie française le confirme, une opération militaire de protection pourrait accompagner l'envoi d'aide humanitaire dans la ville tenue par les insurgés, mais assiégée par les forces de Kadhafi. Et puis pas de retour à la normale pour la production de Toyota avant la fin de l'année. Le premier constructeur mondial est en proie à un manque de pièces détachées après le séisme du 11 mars au Japon. Les usines de plusieurs de ses équipementiers ont été abîmées par le tremblement de terre.
La première fois que j'avais été nommé, là j'avais compris que je ne l'aurais pas parce que j'étais placé derrière un cadreur. Là je me suis dit c'est pas bon ça. Ou alors vraiment, il n'y avait pas d'autre place.
Studio Théâtre.
Ce soir, dans Studio Théâtre,
Laure Adler.
Portrait d'une rebelle du théâtre qui vient d'obtenir le Molière de la meilleure comédienne, Catherine Yégel.
Studio Théâtre. Ce soir sur France Inter, à partir de 23h.
France Inter. France Inter.
La différence.
16h03 sur Inter, c'est l'heure de Carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un voyage, un petit voyage de 55 minutes en Amérique, Amérique du Sud et puis du Nord. On va commencer par le Sud avec le Brésil, Heitor Villa-Lobos qui a écrit pour la guitare, un de ses instruments favoris qu'il maîtrisait assez bien d'ailleurs. Et peut-être que la pièce la plus connue, c'est le prélude, le premier prélude écrit en 1940, c'est une mélodie lyrique. Thank you. Heitor Villa-Lobos, le premier des cinq préludes datés de 1940, interprété à la guitare par Frank Baumgarten. Et voici un Argentin maintenant, Carlos Guastavino, né en 1912, qui nous a quittés en 2000. On l'a appelé, de manière assez jolie, le Schubert de la Pampa. Et il a une cote très grande dans son pays, aujourd'hui encore,